dimanche. Merci de votre présence. Et comme vous pouvez voir, nous allons commencer, et comme ça a été dit aussi, une nouvelle série ce matin qui s'intitule « Quel est cet enfant ?» Nous savons que nous sommes dans la période des fêtes. Le monde, c'est un temps très commercialisé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons nous rappeler justement du Sauveur, la promesse que Dieu a accomplie, la promesse qui a été faite aux prophètes. Et un jour, Dieu qui est l'Amen, comme nous avons vu ce matin, a accompli sa promesse. Alors, cette nouvelle série, comme Ademar a mentionné, va être donnée dans trois messages. Et il va aussi avoir trois réponses. Quel est cet enfant? Le titre? Alors, trois réponses à cette question. Vous savez, c'est très important d'avoir une très bonne compréhension de cet enfant. Dans le temps où est-ce qu'il est né, à l'époque, il y avait des personnes qui avaient une très mauvaise compréhension de qui il était. On commence avec le roi Hérode. Pour lui, cet enfant était une menace à sa royauté, et la façon dont il a réagi face à l'enfant, c'était avec l'hostilité. Il voulait même le tuer. Du fait qu'il ne comprenait pas qui était ou quel était cet enfant. Il y avait aussi des personnes, on nous lit dans le récit de Matthieu que Jésus est né à Bethléem, et Marie, sa mère, était enceinte, justement, à l'époque, et ils sont allés à Bethléem, il y avait une hôtellerie. Et pouvez-vous imaginer les gens qui arrivent, Marie et Joseph qui arrivent là? Les gens, c'est évident que la femme est sur justement le point d'accoucher. Et il n'y avait personne qui voulait justement céder leur place. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors il y avait des gens qui avaient justement une compréhension, une réaction parce qu'ils comprenaient mal. Quel était cet enfant? Et leur réaction, c'était l'apathie. Aucun souci pour cette mère, aucun souci pour le fils qu'elle portait. Il est né dans une étable. Nous avons aussi le cas des sacrificateurs et des scribes. Quand le roi Hérode a su que, quand les mages sont venus et ont posé la question, où est né celui qui est le roi des Juifs? Hérode, il ne savait pas. Alors, il a fait venir vers lui les scribes et les sacrificateurs, les hommes qui étaient calés dans la loi de Dieu. Et eux, ils savaient la réponse. Ils ont dit exactement, ils ont dit, c'est dans la ville de Bethléem, à cause du fait qu'ils connaissaient les Écritures. Mais vous, savez-vous une chose? Ils ne se sont même pas pris la peine de se déplacer pour aller voir cet enfant. Encore une fois, une incompréhension de vraiment qui il était et la façon dont il aurait dû réagir face à cet enfant. La léthargie. Ils ne sont même pas déplacés. Et vous savez, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont tout à fait ignorants en ce qui concerne cet enfant. Même si l'événement a eu lieu il y a 2000 ans, il y a des gens qui encore parlent de cet enfant comme le petit Jésus. Et même aussi, la façon dont ils voient le petit Jésus, « Ah, tu veux avoir quelque chose? Mais demande un petit Jésus et tu vas l'avoir. » Et là, vous pouvez constater cette incompréhension. Les gens ne savent pas vraiment quel est cet enfant. Et ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez vraiment quel est cet enfant? Et c'est très important d'être capable de donner une réponse claire et certaine et exacte. Parce que la façon dont vous allez réagir face à cette naissance, face à cet enfant, va y avoir justement des conséquences très, très importantes dans votre vie. Alors, quel est cet enfant? Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons dans l'Évangile selon Luc. Petite problématique avec l'informatique. Yannick, peux-tu avancer, s'il te plaît? OK. Alors, Luc, chapitre 1, au verset 26. Et notre texte, nous allons lire du verset 26 jusqu'au verset 38. Nous appelons ce texte l'Annonciation. Vous mettez dans le contexte avant de lire le texte, c'est l'ange Gabriel qui est envoyé par Dieu pour donner un message à un personnage tout à fait spécial, Marie. Nous sommes dans Israël, les Juifs, les Israélites sont sous la domination de Rome. Ce n'est pas un temps facile. Les gens savent que les prophètes ont annoncé un jour que le Messie viendrait. Et ils soupirent justement après une délivrance. Ils veulent que, oui, le Messie arrive, qu'il va mettre les Romains dans. Ce serait un conquérant, un chef, un guerrier qui va les délivrer justement de la puissance romaine. Ça, c'est le contexte. Alors, nous lisons ceci. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà notre texte, et ce matin, nous allons focaliser simplement sur le chapitre 1, verset 35b. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, quel est cet enfant? Un enfant pas comme les autres. Sa naissance, justement, Dieu a pris la peine de prendre un ange et de l'envoyer sur la terre pour annoncer sa venue. Ça veut dire pour nous et moi qu'il est spécial. Quand je suis venu au monde, Dieu n'a pas envoyé un ange pour dire à ma mère, justement, pour me donner mon nom et ainsi de suite. Mais on voit comment cet enfant est spécial. Dieu envoie un ange pour justement annoncer sa venue. Et la deuxième chose que nous remarquons, cet enfant, le fait qu'il vient dans ce monde, nous dit que Dieu sera parmi son peuple en forme humaine. Et quand je considère cela, quand je pense à cela, ça me touche énormément. Pourquoi? Parce que ça nous démontre que nous avons affaire avec un Dieu qui aime la présence de son peuple. Il y a des gens qui disent que Dieu a créé l'univers et après cela, il s'est lavé la main puis il s'en occupe plus. Mais quand je lis la parole de Dieu, je vois des choses qui nous démontrent le désir profond dans le cœur de Dieu de connecter avec justement sa création et aussi le top de sa création, l'homme. Je vous donne quelques exemples. Adam et Ève, Dieu avait l'habitude, justement, la parole de Dieu nous dit que Dieu parcourait le jardin le soir. Et j'imagine, justement, l'intimité, la communion que Adam et Ève, avant la chute, jouissaient avec le Créateur. Quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte, une des premières choses qu'il a dit à ce peuple, il a dit à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et nous savons que la présence de l'Éternel était là avec les enfants d'Israël. Quand Jésus est venu dans ce monde, et nous allons voir dans ce passage, dans Marc, nous lisons qu'il a choisi 12 disciples. Et le texte nous dit, pour les croix, les avons avec lui. Quand nous regardons aussi dans l'Apocalypse, on parle de l'éternité. L'apôtre Jean, il voit une vision, il voit justement la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et là, il entend une voix qui dit quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu sera avec eux. Il habitera avec eux. On voit le désir justement profond dans le cœur de Dieu de connecter, d'être avec son peuple. Et ça devrait justement nous encourager. Et si ce matin vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, sachez une chose aussi. Dieu était avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas orphelin. Le pain, il va envoyer quoi? Le consolateur, le Saint-Esprit, qui est Dieu aussi. Il sera quoi en vous? Il sera avec vous. Et la promesse qu'il a faite à ses disciples, voici, je suis quoi avec vous? Tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Waouh! Mais revenons à nos moutons. Le Saint-Enfant qui naîtra de Troie sera appelé Fils de Dieu. Alors, quel est cet enfant? Tout d'abord, il est divin. Cet enfant est divin. Et nous avons des témoignages pour appuyer le fait que l'enfant est divin. Nous avons le témoignage du Père dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, verset 8. Nous avons un dialogue. Dieu est en train de parler à son Fils. Et Dieu le Père dit ceci, « Mais il, Dieu, dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Dieu le Père, qui s'adresse à son Fils, l'appelle Dieu. Alors, on voit tout de suite que Dieu reconnaît justement la divinité de son Fils. Et on sait que Dieu ne peut pas se tromper. Il y a des gens qui posent des questions sur justement cet enfant. Vous voulez avoir la réponse, mais demande à Dieu. Dieu va lui dire, il est Dieu, il est divin. Nous avons aussi le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Il va dire ceci, « Moi et le Père, nous sommes un. » De la même essence, il est en train de dire. Il a dit à ses disciples, quand ils ont demandé, « Montre-nous le Père. » Et cela nous suffit. Et Jésus va répondre, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il y avait des Juifs qui étaient là, un moment donné, et Jésus le disait, dialoguer avec eux autres. Et à un moment donné, il va leur dire, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, il va faire référence à ce nom que quand Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, il a dit, « Je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Et Moïse a dit, « Mais ils vont me demander, mais qui t'envoie? Et l'Éternel a dit, tu vas leur dire que celui qui s'appelle Je suis t'envoie. Alors Jésus, il s'identifie avec justement le Yahvé, le Je suis de l'Ancien Testament pour démontrer justement sa divinité. Nous avons aussi le témoignage de Jésus, mais à travers ses actions. Le pouvoir sur la nature. Il y avait un moment donné que les disciples étaient dans une barque, Jésus était fatigué, il dormait. Il y avait une tempête. Et là, ils vont réveiller le maître pour dire, maître, nous périssions. Et Jésus va se lever, qu'est-ce qu'il va dire? Silence. Tais-toi. Et là, il y a eu une calme. Qui, si ce n'est pas Dieu qui est capable justement de maîtriser les éléments. Alors, par ce geste, Jésus démontre justement sa divinité. Et aussi, le pouvoir sur la maladie et la mort. Combien de fois nous lisons dans les évangiles, les gens qui sont venus vers Jésus, des aveugles, des boiteux, des sourds, des muets, des paralytiques. Et Jésus, avec sa puissance divine, il va les guérir. Au tombeau de Lazare, un homme qui est mort depuis 4 jours. Et Jésus va dire, Lazare, sors! Et le mort est sorti. Imagine la puissance pour montrer sa divinité. Pouvoir sur les démons. Souvent, les démons sont là et Jésus va les chasser avec cette puissance divine pour démontrer qu'il y a autorité aussi sur les démons. Nous avons aussi le témoignage des prophètes. Ésaïe, dans Ésaïe 9, au verset 5, va nous dire ceci, « Car un enfant nous est né. » Et là, il va donner toute une série de noms, mais un des noms qu'il utilise, il est le Dieu puissant. Un autre prophète va dire ici, « Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Dieu est éternel. Jésus est né à Bethléem. Et Michée associe justement cet enfant avec ce chef qui va venir. Et l'origine remonte au temps, quoi? Au jour de l'éternité. Témoignage des apôtres. L'apôtre Jean va nous dire ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais il dit aussi la parole, quoi? Était Dieu. Et là, une parole était faite chair. Alors, fait référence à qui? À cet enfant? La parole était faite chair et était habitée parmi nous. L'apôtre Paul va nous dire ceci. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, quel est cet enfant? Ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le Père, car le Père n'est pas le Fils. Il n'est pas non plus le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit n'est pas le Fils, il manque le pas. Ce qu'il est, il est la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, possédant les perfections de l'essence divine et égal aux deux autres, le Père et le Saint-Esprit. Alors, quel est cet enfant? Il est un enfant divin. J'aurais pu sortir toutes sortes de caractéristiques à propos de cet enfant. Mais une chose que j'aimerais laisser avec vous ce matin, que j'aimerais que vous saisissiez, en étant Dieu, il est le Créateur. Car en lui, l'apôtre Paul nous dit, en parlant justement du Christ, du Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, le Créateur, cet enfant, quel est cet enfant? Il est de Dieu puissant, celui qui a créé l'univers. Par la puissance, justement, de sa parole, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et si vous lisez le récit dans le livre de Genèse, on voit la puissance qui est manifestée. Les scientifiques qui vraiment peinent à comprendre la complexité et combien l'univers est vaste, les galaxies qui contiennent des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles, d'astres. Et Jésus, le Fils de Créateur, est au-dessus de tout cela, et celui qui a créé cela. Il est vraiment incroyable. Deuxième chose, quel est cet enfant? Alors, il est divin, mais il est aussi humain. Et cette fois-ci, on va mettre l'emphase sur l'enfant qui naîtra. L'ange va dire à Marie, l'enfant qui naîtra. Alors, il est divin, appelé fils de Dieu, Dieu le Fils, mais il est aussi humain, parce que c'est un enfant qui va naître. Et quand on parle justement de cet enfant, et on veut maintenant focaliser sur son humanité, nous avons des preuves, justement, pour montrer qu'il était aussi humain. Jésus a connu l'expérience de la naissance, comme tout enfant qui vient dans ce monde. 9 mois dans le sein de sa mère et né comme les enfants sont nés. L'enfant qui naîtra de toi d'une mère humaine est venu dans ce monde de la même manière que les enfants viennent au monde. Il a connu aussi la croissance. Dans Luc chapitre 2, 40, nous lisons l'enfant Jésus, il va croître. Il était ado, jeune adulte, lui aussi est arrivé à l'âge adulte. Il a connu aussi l'expérience de la fatigue. On voit que dans Jean chapitre 4, Jésus est fatigué de son voyage. Il va aussi connaître l'expérience du sommeil. Il est dans un bac, il est fatigué, il s'endort. De la faim, dans Marc chapitre 2, quand il est dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le diable s'approche et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, commande à ces pierres qui deviennent du pain. » Il avait faim. Jean chapitre 4, verset 7, nous voyons que Jésus a soif, il est au bord d'un puits de Sichar. Et la femme samaritaine est là et Jésus lui demande, « Donne-moi à boire, parce qu'il est humain. » Et il connaît la soif. Il est connu aussi de la colère. Dans Marc chapitre 3, verset 5, on voit Jésus qui va guérir un homme avec une main sèche et les pharisiens sont là. Ils sont en train de regarder voir s'il allait justement faire un miracle le jour du sabbat. La parole de Dieu nous dit que Jésus promène du regard sur eux avec indignation. J'imagine des épées, là, des fusils qui sortaient de ses yeux. Face à ces personnes, tellement il était fâché. De la tristesse, Jean chapitre 11, verset 34, Jésus pleura. Lazare est mort. Marie et Marthe, les sœurs, sont peinées, pleurent, brisées, le vie justement bouleversée par la mort de leur frère. Et Jésus il peut compatir avec cette tristesse profonde des larmes qui coulent. De la compassion, Marc 9, verset 36, Jésus qui voit la foule devant lui, ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il a aussi connu l'expérience de l'amour. Jean 10, verset 21, il y a un jeune homme qui s'approche, il a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus dit, « Ok, tu vas garder les commandements et ainsi de suite, et dans toute la liste honore ton père et ta mère. » Il dit, « Je garderai tout cela dès ma jeunesse. Qu'est-ce qui me manque encore? » Jésus a dit, « Va vendre tout ce que tu as. Viens, suis-moi. » Et la parole nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et nous savons que ce jeune homme-là, le prix était trop élevé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est allé triste parce qu'il avait quoi de grand bien. Il a aussi connu l'expérience de la joie. Dans Luc 10, 21, nous lisons que Jésus tressaillit de joie devant le Père. La tentation, Marc chapitre 4, était tentée par le diable. De la souffrance, Luc chapitre 22, verset 44, Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il est devant, justement, qu'est-ce qui s'en vient, la croix. Et la parole de Dieu nous dit que sa soeur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre, étant en agonie. Cette tristesse profonde, comme il a dit à ses disciples, « Mon âme est triste même jusqu'à la mort. » Il a connu la tristesse. Il était humain. Et aussi, il a connu la mort. Luc 23, 46, Jésus, sur la croix, va dire ceci, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il expira. Alors, cet enfant est humain. J'aimerais juste prendre le temps de parler justement de qu'est-ce que ça fait que cet enfant est divin et aussi il est humain. Le résultat de cela, ce qu'on appelle l'union hypostatique, un grand mot, mais il s'expliquait. Par l'incarnation et à travers la naissance virginale, la seconde personne de la Trinité, Dieu le Fils, cet enfant, est venu, prenant sur lui-même la nature humaine. Il demeure pour toujours parfaitement Dieu et parfaitement homme, les deux natures distinctes se trouvant dans une seule et même personne pour l'éternité. Alors, quel est cet enfant? Il est Dieu. Quel est cet enfant? Il est aussi homme. Parfaitement Dieu, parfaitement homme, les deux natures distinctes dans une même personne. Et il y a des résultat de cela. En tant qu'homme, Jésus-Christ pouvait représenter l'homme et mourir comme un homme. C'est pourquoi il est venu. Mourir comme un homme à votre place et à ma place pour les péchés. En tant que Dieu, la mort de Christ pouvait avoir une valeur infinie, suffisante pour procurer la rédemption des péchés du monde. Et le mot « rédemption » veut dire simplement le rachat. C'est un vieux mot utilisé à l'époque, quand il y avait des esclaves dans le marché d'esclaves. Et quelqu'un allait là qui voulait procurer un esclave, il payait une somme d'argent pour justement acheter. Alors, « rachat » veut dire « payer le prix ». Le péché, il y a un prix inestimable attaché à cela, parce que Dieu est trois fois saint. Et le péché, à ses yeux, est extrêmement horrible. Alors, qu'est-ce qui va satisfaire justement la sainteté de Dieu, en ce qui concerne le péché? Parce que le péché, il amène justement une conséquence, la mort. Mais en tant que Dieu, Jésus-Christ est capable justement de payer pour les péchés du monde parce que la valeur de sa vie qu'il donne va justement égaler la valeur de la justice que Dieu exige pour le péché. C'est le seul qui était capable de faire cela. Il y a une deuxième chose aussi qui découle de cette union hypostatique. Je ne l'ai pas écrit, mais aussi j'aimerais vous partager cela. En tant qu'homme, aujourd'hui, assis à la droite de Dieu le Père, il est maintenant notre souverain sacrificateur. Et quand vous êtes dans l'épreuve, et quand je suis dans l'épreuve, je peux aller au trône de la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un là qui me comprend, qui sait exactement qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et quand je viens avec mes larmes, ma souffrance, quand je subis le rejet, la peine, toutes sortes de choses, lui, il me comprend. Parce que lui, en tant qu'homme, il a goûté, il a expérimenté les mêmes choses. Et il peut, comme la parole de Dieu nous dit, secourir ceux qui sont éprouvés, parce que lui-même, il a été aussi éprouvé, mais sans commettre le péché. Et c'est pourquoi Dieu a combiné les deux natures. Aussi, en étant Dieu comme sacrificateur, il est éternel. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, il y avait une laps de temps, après ça, ils mouraient. Mais Jésus demeure pour toujours notre souverain sacrificateur qui est toujours là en train d'intercéder pour vous et pour moi. Wow! Quel est cet enfant? Il est Dieu le Fils, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Mais j'aimerais focaliser ce matin, et ça c'est mon troisième point, et après ça j'amène une application. Cet enfant est un fils. Le saint enfant qui naîtra de Troas sera appelé fils de Dieu. Il est Dieu, le Fils, parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais dans une relation avec le Père, il est un fils. Et j'aimerais focaliser pour quelques instants sur cette relation. Alors, quelle est la relation qui devrait exister entre un père et son fils? C'est l'amour. Et dans le cas de Jésus et son père, l'enfant qui naît, c'est un amour mutuel. Jésus avait aucun doute qu'il était aimé de son père. Le père même, il va dire dans Jean 5, verset 20. Le père aime le fils, Jean 5, verset 20. Le père m'aime. Et vous lisez l'évangile de Jean, c'est riche. Comment est-ce que Jésus va parler de son père et cet amour qui existe entre le père et le fils? Et combien ça a dû être une consolation, un encouragement dans son humanité de savoir qu'il y avait un père qui l'aimait. Mais il y a aussi un retour. Parce que Jésus va dire ceci, « Afin que le monde sache que moi j'aime le Père. » Alors dans cette relation, Jésus en tant que fils, cet enfant en tant que fils, il est aimé de son Père. Et quand il va grandir, lui aussi, il va aimer son Père. Deuxième chose aussi qu'on voit associée avec cet amour entre le Père et le Fils et le Fils et le Père, c'est la notion d'honneur. Malachie 1,6 nous dit qu'un fils honore son père. Et même, c'est tellement important que le Seigneur a mis ça dans un de ses commandements. Les 10 commandements, vous allez dire « Honore ton père et ta mère ». Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, de tous les commandements de Dieu, « Honore ton père et ton père » est toujours là. Parce que dans la relation que Dieu a établie entre lui et son fils, et nos relations maintenant entre humaines, entre fils et parents, c'est toujours calqué sur les relations qui existent dans les cieux. Alors ça ne change pas. Et Jésus sur la terre va dire ceci, j'honore mon père. Combien de fois il était en train de dialoguer avec les Juifs et il va dire souvent, « J'honore mon Père, je cherche justement la volonté de mon Père, j'honore mon Père. » Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que Dieu a été déshonoré par d'autres fils. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Si vous lisez le livre de Job, chapitre 1, on voit qu'un jour, les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel et Satan vient se présenter au milieu d'eux. Alors, les anges aussi sont considérés comme des fils de Dieu. Et parmi ces anges-là, il y a eu la rébellion de Satan et d'autres anges qui l'ont suivi. Et le texte dans Ésaïe 14, 13 et 14 va nous dire ceci. En parlant de Satan et sa rébellion contre Dieu, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu disais dans ton cœur, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Quel orgueil! Je te précipite de la montagne de Dieu. Quelle rébellion! Cet ange que la Bible dit, c'était un chérubin protecteur, que Dieu avait créé, que Dieu avait donné toute sagesse. Ézéchiel parle de sa beauté, dit qu'il était en Éden, il était parmi des pierres étincelantes et ainsi de suite. Un être magnifique qui devait tout ce qu'il devait, c'était à cause de son Créateur, Dieu. Et pourtant, il a décidé dans son cœur qu'il était élevé par l'orgueil de se rebeller, de rebeller contre justement son Créateur. Peux-tu imaginer justement l'insulte face à Dieu? Dieu est tellement bon. Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement pur. Dieu est tellement saint. Et voilà, il y a cet être qui crache, pour ainsi dire, dans le visage de Dieu et qui dit par ses gestes et tes actions, je ne veux pas de toi. C'est moi qui vais te remplacer. Je veux serai semblable du Très-Haut. Je vais mettre mon trône justement sur la montagne de Dieu. La rébellion contre Dieu est une insulte à sa personne. Parce qu'en train, en tant que Dieu, il est digne justement d'être honoré, il est digne d'être obéi, il est digne de tout, d'être révéré, d'avoir une crainte justement de sa personne. Et ça, vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement grave. Nous voyons aussi une deuxième fois que Dieu a été déshonoré par notre fils, Adam. Si vous lisez la généalogie d'Adam, il y en a deux, vous allez voir qu'à un moment donné, on va remonter et on va appeler Adam fils de Dieu, quand on arrive en haut. Et la rébellion d'Adam, et l'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait donné à cet homme tout, le paradis. Il y avait cette communion avec Dieu, il y avait la domination sur la terre, et tout ce qu'il pouvait vouloir créer à l'image de Dieu. Et pourtant, une seule chose, tu ne peux pas manger justement de ce fruit. Et on voit la rébellion. Ève a été séduite. Ce n'est pas la femme qui s'est rebellée. C'est Ève parce que Satan est venu. Et par la séduction, il a amené justement Ève à penser que Dieu, là, il nous retient quelque chose qui sera pour notre bien. C'était la séduction. Mais Adam, il avait les yeux ouverts. Et quand cette femme est venue, Ève est venue et lui a donné justement du fruit, il n'a pas été séduit par le serpent. Lui, il a pris du fruit et il a mangé. C'était un acte de désobéissance flagrant. Et encore là, c'était un déshonneur à Dieu, son Créateur, qui lui avait donné tout ce dont il avait besoin. Jésus dit, j'honore mon Père comme un fils, comme tout fils qui devrait honorer son Père. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Le texte dit ceci, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce que cela nous dit? Voilà Jésus devant son Père en tant que fils. Nous avons l'exemple de Satan qui rebelle, qui déshonore justement son Père. Nous avons Adam et Ève qui ont rebellé aussi contre la volonté de Dieu. Et le fils Jésus qui vient maintenant pour démontrer à tout l'univers, qu'est-ce que c'est d'honorer le Père? La volonté du Père, c'était qu'il aille mourir sur une croix. La volonté du Père, c'était qu'il y donne sa vie. La volonté du Père, c'est qu'il rachète plutôt un peuple. Et ça, c'était un acte d'obéissance. Contraste entre rébellion et l'obéissance parfaite pour démontrer justement à tout l'univers que Dieu était digne d'être obéi. Et qui fait cela? Nul autre que le Fils. Tellement important. L'univers est en train de regarder qu'est-ce qui se passe lors de ce moment-là. Dramatique. Et Christ, par sa soumission entière à la volonté de Dieu, est en train de dire à tout l'univers, « Mon Père, je l'honore, il est digne d'être obéi. » Et Dieu, de fait, qui a été comme l'affront qui a été là, il va restaurer l'honneur et la dignité du Père. Il va dire ceci, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et ça, c'est la preuve, justement, qui, maintenant, tout l'univers peut regarder. Et quand il voit le Fils soumis complètement à la volonté du Père, ça donne, justement, l'évidence à tout l'univers que Dieu est digne d'être obéi. Et le Fils le fait en étant entièrement soumis à sa volonté. Il va restaurer l'honneur et la dignité du Père. J'honore mon Père. J'honore mon Père. J'honore mon Père et je vais être soumis à sa volonté. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais vous savez aussi que Jésus a fait quelque chose pour vous et pour moi aussi. Parce que lors de la chute et la rébellion de Satan, l'image de Dieu a été défigurée. Dieu a créé l'homme à son image. Mais si vous regardez aujourd'hui dans le monde, et comment est-ce que les êtres humains sont capables, dans leur relation les uns avec les autres, d'être si méchants, d'être si pervers, d'avoir des actes de violence inimaginables. Même j'ai vu une fois une bande dessinée où est-ce qu'il y avait deux singes qui se parlaient. Puis ils disaient, des gens disent que l'homme descend du singe, mais c'est impossible parce que nous n'agissons pas comme cela avec justement d'autres singes. L'image de Dieu a été défigurée à cause du péché. Et qu'est-ce que Jésus a fait par sa mort? Et à restaurer l'image de Dieu pour vous et pour moi. Le texte nous dit ceci, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est ce qu'il nous attend. Le salut en Jésus-Christ est plus que juste être épargné de la pénalité du péché. C'est d'être restauré à ce que Dieu aurait voulu pour nous au tout début. D'avoir cette image. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, comme Paul dit, nous allons aussi porter l'image du céleste. Et un jour, on va être débarrassé du péché et on va retrouver justement l'image de Dieu en Jésus-Christ. Et le texte nous dit ici, il les a aussi glorifiés. Alors, le Fils a restauré l'honneur et la dignité aussi de vous et de moi. Ça, c'est une belle théorie, mais comment est-ce que nous devrions répondre à cette vérité? Je vous laisse avec deux choses et ensuite une application. Face au Fils de Dieu, je parle justement de cette relation entre Dieu et son Fils. Alors, Jésus, cet enfant, en tant que Fils de Dieu, nous devrions imiter le Père. Et le texte nous dit dans 1 Samuel 2:30, Dieu dit, « J'honorerai celui qui m'honore. » Alors, le Fils honore le Père par sa mort, pour démontrer que le Père est digne d'être obéi. Et comment est-ce que le Père réagit à cela? Il dit, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, en tant que Fils, Jésus, cet enfant qui devient Jésus, qui grandit, occupe une place de choix dans les affections du Père. Et nous honorons et nous glorifions le Fils de Dieu quand nous l'élevons dans nos affections. Dieu va regarder son Fils et du fait que le Fils l'a honoré, il va dire, je mets toute mon affection en lui. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Parce que c'est lui qui m'a honoré par sa mort pour démontrer justement que je suis digne d'être obéi. Et dans le cœur de Dieu, il y a cette place de choix. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous aussi, quand nous considérons ce que Christ a fait à la croix pour nous et comment est-ce qu'il restaure l'image de Dieu en nous, notre réaction devrait aussi de l'honorer dans nos affections. De l'aimer. Deuxième chose, John Piper a dit ceci, « God is most glorified in us when we are most satisfied in him. » Nous glorifions Dieu le plus quand nous trouvons notre pleine satisfaction en lui. Ça, c'est une manière justement d'honorer le Fils parce qu'il nous a honorés. Deuxième chose, comment devrions-nous répondre face à cette vérité? J'honorerai celui qui m'en a, c'est encore le texte. Mais Dieu aussi a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors Dieu aussi, quand Jésus-Christ a donné sa vie, il a élevé et lui a donné une place justement à sa droite. Il est Seigneur. Et en considérant maintenant cet enfant comme Dieu le Fils, le Dieu puissant, nous devrions imiter Marie. Marie a dit ceci quand l'ange lui a dit que tu vas avoir un fils. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Tu vois la soumission. Les affections, la soumission. Et nous élevons Dieu le Fils par notre soumission qui trouve sa motivation dans nos affections. Un cœur rempli d'affection pour Dieu qui aime le Seigneur à cause de ce qu'il a fait pour nous n'aura pas de problème à être comme Marie, d'être soumis à sa volonté. Je vous laisse avec trois applications rapidement. Votre présence a un réconfort pour autrui. J'ai parlé de Dieu avec nous au début, cet enfant. Dieu est avec nous. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et souvent, parmi les enfants de Dieu, le temps des fêtes parfois est difficile. On est en famille, mais parfois on a plus d'affinité avec nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ spirituellement qu'avec nos frères et nos sœurs de chair. Et c'est normal, surtout s'ils ne connaissent pas le Christ. Mais Dieu était avec nous. Et j'aimerais vous laisser avec une application, peut-être votre présence. Au lieu d'éviter peut-être ces rencontres, parce que des fois c'est difficile, tu sais, pense pas que je vais y aller, ils avaient de la chicane, tout ça. Mais nous sommes la lumière du monde. Et comme Dieu était parmi nous dans ce temps, mais notre présence pourrait être aussi un réconfort, une lumière pour des personnes qui nous entourent, qui ont besoin du Christ. Deuxième chose, une passion, un renouveau dans les affections. Devant le Seigneur et tout ce qu'il a fait, que nos cœurs aussi brûlent une fois de plus. Retrouver la flamme, retrouver justement la passion qu'on avait au début, la première fois que nous avons rencontré le Christ. Et nous avons saisi qui nous aimait. Le Père honore le Fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Que le Seigneur vous donne et me donne aussi un cœur passionné pour le Christ. Et la troisième chose, je termine avec ceci, votre pardon, une repentance de l'âme. Si vous ne connaissez pas le Christ, mais ça passe par cela. Dieu est prêt à pardonner les péchés parce que Christ est mort sur la croix. Il a payé la dette de nos péchés. Et quand on passe par la repentance, on change complètement, c'est un 180. Et comme j'ai parlé au début, une incompréhension de cet enfant. Mais quand nous saisissons qui il est et pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il veut faire dans votre vie et la mienne, on ne peut que changer, mais on devrait justement changer d'attitude envers lui. Ça, on appelle ça une repentance. Et on le voit comme étant celui qui est venu pour justement nous sauver. Alors, on vous laisse avec ces trois applications que le Seigneur nous donne la grâce justement de les mettre en pratique. Et on va terminer par la prière. Seigneur, on veut te remercier pour le Fils, Dieu le Fils qui est venu, et le Fils de Dieu aussi qui était en Jésus-Christ. Seigneur, les paroles nous manquent pour te remercier pour ce don merveilleux. Ma prière, c'est que tu puisses nous aider, Seigneur, à refléter sa personne pendant ce temps des fêtes. Vraiment d'apprécier qui il est. Et si, Seigneur, ce matin, il y a parmi nous ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses leur donner cette révélation. Le Fils de Dieu, comme l'apôtre Paul qui a dit, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que ce soit vraiment le témoignage de quelqu'un ici ce matin. De vraiment reconnaître que Jésus est venu pour payer la dette de leurs péchés. C'est par nous, avec ta bénédiction, nous te demandons au nom de Jésus. Amen.